Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque 29e de la saison. Bonjour Michel Santo.
Bonjour Jean-Claude Dujelès.
Bonjour Bernard De Vic.
Bonjour.
Maire de la commune de Caves, mais également président du PNR, le parc naturel régional de la Narbonnaise, ce qui très probablement occupera une grande partie de notre interview en troisième partie, justement. Mais vous êtes maire également et vous vous occupez encore des affaires de votre commune, ce qui vous vaudra éventuellement, Bernard De Vic, quelques questions. Le sommaire, Michel, tu souhaites nous parler de Marie-Hélène Fabre et les éoliennes.
Oui.
Alors c'est pas un volume de la série Rose, c'est véritablement une information.
Hein, ah oui, c'est pas du vent, hein, c'est une information sérieuse.
Bon, après quoi, je fais référence à un de tes billets récents, la grande région va coûter plus cher, ce que tu avais laissé entendre depuis longtemps.
Oui,
apparemment, tu poursuis sur cette analyse.
Exemple concret.
Dans une deuxième partie, les associations de Narbonne dorénavant devront cracher au bassiner lorsqu'elles ont besoin d'une salle. C'est la dernière trouvaille de la mairie, apparemment.
Mon Dieu, quelle expression, Jean-Claude. Oui, oui, effectivement.
Oui, non, mais appelons un chat un chat. Dans cette émission, on n'aime pas tourner autour du pot et manier la langue de bois. Alors, disons les choses clairement.
Oui.
Et nous terminerons par un exercice de glisse à la vieille nouvelle.
Oui.
Tu nous expliqueras aussi que ce langage sibyllin à première vue cache en vérité d'informations. Alors tout d'abord, Marie-Hélène et les éoliennes.
Oui, j'ai appris en lisant la presse locale que Marie-Hélène Fabre, notre députée, avait réussi une très très belle opération à l'Assemblée lors du vote d'une loi relative aux énergies renouvelables en faisant voter un amendement qui permettait aux producteurs et installateurs d'éoliennes de les installer dans un rayon d'un kilomètre seulement autour d'un monument historique. Alors, grande victoire de Marine Favant Fabre, parce que le Sénat, lui, avait voté un amendement, donc combattu par Alain Fabre et qui a remporté la majorité à l'Assemblée. Les sénateurs, disais-je, eux, avaient fixé la limite à 10 kilomètres.
Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose.
Donc Marine Fabre a gagné 9 kilomètres. Alors, je ne sais pas si les Narbonnais et Perpignanais et Biterrois qui nous écoutent s'en rendent compte, mais nous n'avions pas, dans des régions comme les nôtres, des territoires contraints, inondables, encore qu'une âme, ça ne marchera pas. Enfin bon, protégés au titre de différentes lois relatives à l'environnement, mais physiques et géologiques. Je ne sais rien, moi, bon, territoire pour protéger la Pigrayèche, la Clape, enfin bon, bref, toute une série de territoires contraints. Si nous n'avions pas ce genre de contraintes, déjà imposées par l'État, nous pourrions très bien avoir autour d'un cercle partant du centre de la cathédrale Saint-Just de Narbonne des éoliennes, très très près, effectivement, à un kilomètre. Hein. Pareil dans les villages où il peut exister une église ou une chapelle classée, pareil, on aurait des éoliennes à un kilomètre du centre du village. Ou, par exemple, tiens, le canal, il va être classé monument historique. Le préfet dit, limite 500 mètres de part et d'autre, impossible de faire quoi que ce soit sans l'aval de l'architecte des bâtiments de France. Et bien, 500 mètres de plus, paf, on pourra installer des éoliennes, ce qui ravira probablement les touristes et ceux qui ont l'intention de décerner, ou plutôt de renouveler, le classement à l'UNESCO de ce patrimoine qui fut un temps magnifique. Donc on en est là. Alors le problème, c'est que cette dame que je connais, évidemment, une Narbonnaise comme nous, qui par ailleurs lutte contre tous les lobbies, qui à l'Assemblée font leur métier auprès des parlementaires pour expliquer qu'une loi pourrait leur porter préjudice au plan économique.
Et Dieu sait si des lobbies il y en a, et Dieu sait s'ils sont actifs.
Eh bien là, l'espèce, elle est, elle aussi, d'une certaine manière, la porte-parole, pour ne pas dire la victime, du lobby des producteurs et des installateurs d'éoliennes. Alors, on peut la comprendre d'une certaine manière, hein, puisqu'elle reflète aussi les intérêts de certains nombres de maires de notre département.
Voilà, il faut dire aussi les choses.
Hein. Il faut expliquer cela, en fait, à nos auditeurs. Aujourd'hui, chaque consommateur, chaque ménage qui consomme de l'électricité, en moyenne, en France, paie 90 euros, qui vont directement dans les caisses d'EDF, parce que EDF est obligé d'acheter l'énergie produite par ces éoliennes.
Qui coûte cher.
Qui coûte des milliards d'euros au pays. Alors, on ne va pas discuter effectivement de l'intérêt ou pas. Non,
oui, bon, simplement, c'est du volontarisme politique.
Voilà, donc c'est une subvention déguisée, mais payée directement par le consommateur d'électricité. Mais les maires, eux, qui n'ont pas ce problème en tant que maires, mais qui ont un autre problème, à savoir l'équilibre de leur budget, et en tout cas, l'intérêt de leurs concitoyens, ne souhaitent qu'une chose, tapisser leur territoire, et s'ils le peuvent, s'ils ne sont pas contraints par des lois environnementales, d'éoliennes. Pourquoi ? Parce que dans notre communauté d'agglomération, contrairement à d'autres,
le Grand Narbonne, oui.
Les éoliennes en question, qui génèrent de l'équivalent de l'ex-taxe professionnelle, eh bien, ces taxes professionnelles ne vont plus et ne sont pas entièrement captées par l'agglo, mais la moitié revient à la commune. Alors si on rajoute effectivement... Tiens, je prends un exemple. Une commune Tartempion, trois éoliennes, ça fait 50 000 euros d'impôts à répartir. Il y en a la moitié qui va à l'agglomération et l'autre moitié à la commune.
Oui, bon, ben c'est tentant, évidemment.
Si on rajoute à cette moitié de la commune la part qui vient directement en termes de fiscalité, ça fait plus de la moitié. Rajoutons à ça que les producteurs d'éoliennes en question distribuent des subventions aux chasseurs du coin. Parce qu'effectivement, les plus féroces opposants aux éoliennes, elles font partir le gibier, sont les chasseurs de la commune. Donc on est dans un système, en fait, dans notre territoire, mais en France de manière générale, où, sous l'apparence, qui peut se justifier au plan macroéconomique, d'incitation à la production d'énergie renouvelable, ce qui est juste dans son principe et sain pour notre pays, en réalité, se trouve toute une série d'intérêts qui se mobilisent pour l'installation, un petit peu dans n'importe quelle condition, de ces éoliennes, pour des intérêts d'une autre nature et bassement financiers. C'est tout ce que je voulais relever sur le sujet, de manière à éclairer nos auditeurs.
Cela dit, les éoliennes, si on en veut, on ne pourra pas les enterrer.
Oui, effectivement, il n'y a qu'à les mettre sur l'eau, en fait. C'est l'avenir. Et espérons qu'effectivement, le projet de la nouvelle sera retenu.
Alors, la grande région va nous coûter plus cher. Là, tu poursuis sur une analyse déjà ancienne, Michel.
Oui, j'avais fait observer, compte tenu du tour que prenait la campagne des dernières élections régionales, que cette fusion des régions, dont on nous avait dit qu'elle serait source de synergie et donc d'économie budgétaire, notamment pour la partie administrative, donc les frais fixes, en réalité, s'avérerait beaucoup plus coûteuse que l'existence additionnée des deux anciennes régions. Et j'en veux pour preuve, alors non seulement le fait qu'effectivement, comme il s'y était engagé, on ne peut pas le lui reprocher, certaines réunions de l'Assemblée ou de la commission permanente de la région se tenaient à Montpellier et une autre à Toulouse. Mais je viens d'apprendre, en lisant la presse un peu spécialisée sur le sujet, que les services de la grande région avaient été répartis, eux aussi, entre les deux hôtels de région, qui évidemment ne seront pas...
Qui seront maintenus.
Et qu'il semblerait, quand on faisait les additions en termes de gestion budgétaire des deux services répartis sur les deux sites, celui de Montpellier, de l'hôtel de région de Montpellier, serait mieux doté que celui de Toulouse. Avec au passage, un directeur général qui a sa résidence administrative à Montpellier, pour afficher effectivement qu'il est à Montpellier, et sa résidence fonctionnelle, en fait, à Toulouse.
Logique.
Ça veut dire qu'au final, on a deux hôtels, alors qu'on a très bien pu en imaginer un seul, quand on fusionne une grande chaîne de région, comme on, quand on fusionne deux entreprises, bon, bah, on garde pas les deux sites d'entreprise. Bon,
bah, oui. Oui, mais hein, voilà.
De sorte qu'on se retrouve dans un système où, comme je l'avais prédit, où on n'a pas 1 plus 1 égale 3, comme on le résume assez facilement pour expliquer ce qu'est une synergie en termes économiques
bon
financiers.
Oui.
On a 1 plus 1 égale moins 1. Voilà. Hein, donc, à l'évidence, c'est une réforme qui, contrairement à ce qui a été dit, ne générera pas des gains de productivité, donc des économies, mais au contraire des ressources, des dépenses additionnelles. Tout ça pour dire que cette réforme a été mal embouchée, très très mal négociée, et que l'on paie là effectivement les atermoiements, les inconséquences d'un projet qui, au départ, était effectivement un bon projet.
Voilà. Et on marque une première pause pendant laquelle on pourra réfléchir sur cette nouvelle formule algébrique. 1 plus 1 égale moins 1. Dixit le mathématicien Michel Santo.